Bonjour à tous, on parle des saisonniers aujourd'hui avec Antoine Fatiga, vous êtes le responsable CGT des saisonniers, bonjour.
Oui, bonjour.
À quelques jours du début des vacances scolaires, on a eu en Savoie, en Tarentaise, cet éboulement ce week-end. Alors, les saisonniers ne sont pas directement impactés, mais quand même, on s'inquiète.
Alors, on s'inquiète d'autant plus que les salariés qui font Albertville, Moutier, Bourg-Saint-Maurice, il y en a quand même un certain nombre, et même dans l'autre sens, puisque, par exemple, pour aller à l'hôpital, il faut aller à Albertville. Donc nous, la proposition qu'on a faite, c'est de dire aujourd'hui, renforçons, doublons le nombre de trains, et y compris mettons-les gratuits, comme ça s'est fait en moyenne pour l'autoroute, face à l'éboulement qui a eu lieu. Et donc ça permettrait, aux gens de pouvoir se dire, je prends mon train à Albertville. Dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. À Moutier et à Bourg-Saint-Maurice, les transports sont en bus sont après développés. À Bourg-Saint-Maurice, d'ailleurs, il y a le funiculaire. Et puis, dans l'autre sens, il faut simplement qu'Albertville développe un peu plus le transport collectif. Et je pense que ce serait une bonne solution qui permettrait, y compris, de désengorger ce fameux tunnel de Ponceran où on attend des fois 9-10 heures pour passer de l'autre côté.
Ça va circuler, mais donc mal. Le transport, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les saisonniers sont rattachés à la section transport. On est conducteur de télésièges.
C'est ça. Ouais. On est conducteur. C'est-à-dire que les domaines skiables, c'est du transport urbain, du transport de personnes. Donc, c'est pour ça que c'est rattaché, au ministère des Transports. Et de ce point de vue-là, donc, on a fait y compris des propositions pour développer le transport en bas de la station. Hein. On est beaucoup sur des questions d'ascenseurs valéens, que ce soit dans la vallée de la Tarentaise, y compris d'ailleurs en Haute-Savoie, et y compris d'ailleurs pour développer le train pour venir en station. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la consommation de gaz à effet de serre, elle est 75% pour venir dans la station, et puis après, c'est 25% sur la station. Et je le dis de manière humoristique, mais c'est pas parce qu'on met une dameuse électrique qu'on va justement faire en sorte de réduire les gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, on voit que ça a quand même des conséquences importantes sur la santé. C'est pour ça qu'on milite tout de suite pour le développement du train, et y compris dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, de faire en sorte qu'on ait à la fois un volet social, un volet environnemental qui est important pour nos stations, et puis un volet de mobilité, parce que c'est aussi une question, de santé publique, mais y compris d'environnement et d'avenir de la planète.
Les JO, on va y revenir. Sur le transport, sur le développement du ferroviaire, la solution passe par quoi? Alors, investir, ça coûte très cher. Oui. Qui paye et qui on va convaincre?
Alors, qui paye? Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est quand même dans un État qui se fait ratiboiser à chaque fois par l'Europe parce que, pour inaction climatique. Il faut voir, la France, elle investit 41 euros par an et par habitant pour le ferroviaire. Les Suisses investissent 10 fois plus. Nos amis italiens investissent 2 fois plus. Donc, quand il y a de l'argent, on peut développer. Ça dépend aussi des transports du Conseil régional. Et nous, on a écrit pour l'histoire de la Tarentaise à Fabrice Pencouc, ancien maire de Moutier qui connaît bien la situation, pour justement développer le ferroviaire. Si on ne développe pas le ferroviaire, aujourd'hui, les gens vont être contraints, et comme ils le font aujourd'hui, à prendre leur voiture, donc à polluer et à engorger les routes. Si on développe le ferroviaire, on pourrait doubler un certain nombre de voies. Alors, je parlais de la Tarentaise, mais je peux parler aussi du doublement, par exemple, de la voie à La Roche-sur-Foron. Vous voyez, donc, et on voit bien, si on prend cet exemple-là du ferroviaire sur le Léman Express, que quand on développe l'offre, eh bien les gens sont au rendez-vous et ils prennent le train. Et je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses pour l'avenir de notre planète.
Les ascenseurs valéens, on les a évoqués aussi, ils se développent un petit peu, Saint-Gervais, Bourg-Saint-Maurice notamment. C'est une bonne solution pour les touristes et puis pour les saisonniers
pour les salariés, parce que l'ascenseur valéen, il permet d'attaquer bien plus tôt, donc très souvent automatisé, y compris d'amener les salariés au moment où ils commencent leur service, que ce soit pour certains à 6h du matin, même 3h30, 4h. Et on voit là où c'est mis en place, ça fonctionne. Et c'est aussi une des solutions qui peut aussi répondre à un problématique de logement. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le logement dans les stations, il est extrêmement cher. Le logement en bas de vallée, il est un peu moins cher. Donc ça permet y compris de loger des saisonniers, mais aussi aujourd'hui, ce qui est aussi un gros problème, c'est pour les gens qui y habitent. Parce que quand vous êtes Chamonix, à Flaine ou même à Courchevel, avoir du logement, faut être au moins directeur de station pour pouvoir se le payer. Donc pour habiter en bas, à Bride-les-Bains, Bozelle, permet de faire à la fois du logement social qui est beaucoup plus accessible et de garder des gens à l'année. Et nos territoires ont besoin de garder des gens à l'année, sinon ça devient un peu comme le Far West, c'est-à-dire comme l'Orblanc. Quand vous avez de la neige, il y a du monde. Quand vous n'avez plus de neige, c'est fini.
Le logement, ça reste la première préoccupation, oui. La première difficulté.
Tout à fait. Première difficulté à la fois pour les saisonniers, mais première difficulté aussi aujourd'hui, qui vient en tête, pour les gens qui habitent sur le coin. Et on voit que ça se fait aussi beaucoup concurrence avec d'autres systèmes comme Airbnb et d'autres systèmes de location. Et nous, nous appelons les pouvoirs publics à mettre des systèmes de régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces logements-là sont construits avec de l'argent public ou sont refaits avec de l'argent public. Et il faut qu'on dise en France, on ne peut pas avoir de l'argent qu'on nous donne sans contrepartie. La contrepartie peut être, comme ça a été fait en Savoie, passé un temps avec une opération qui a été faite avec Michel Bouvard, c'est dire pendant 9 ans, il y a un engagement du propriétaire de le mettre à disposition des saisonniers, de le louer pour des gens qui habitent sur place. Ça, c'est une bonne idée. À La Plagne, le maire de La Plagne, Jean-Luc Bock, qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'il construit du logement pour ces gens, mais il dit, je veux un contrat de travail de gens qui s'engagent, et ce logement, je le mettrai à disposition pendant les 9-10 ans qui viennent, puisque c'est construit avec l'argent de la mairie.
Avant de parler des JO, l'autre problématique, encore et toujours, j'ai envie de dire, c'est le chômage. Les contrats ont tendance à se raccourcir. Ça veut dire qu'on a moins d'indemnisation chômage ?
Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour toucher l'indemnisation chômage, il faut avoir cotisé pendant 6 mois, ce qui est d'ailleurs très peu le cas. 6 mois pendant les 24 mois, il n'y a que quelques stations qui arrivent, et encore. Donc on pense qu'au mois d'avril, ça va être baissé à 5 mois, mais même pour ces gens-là, ça va être extrêmement difficile, d'autant plus qu'on cumule des périodes non travaillé pendant les périodes d'intersaison. Donc c'est une façon dont il faut voir que pour le saisonnier, il y a eu aussi 2 coups avant. C'est que d'abord, on n'est plus indemnisé, par mois travaillé, on est indemnisé sur la totalité de la période avec une baisse d'indemnisation. Et puis l'autre chose, c'est que l'indemnisation pour le saisonnier est encore sur une période plus courte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de saisonniers d'ailleurs quittent la station pour dire « je vais aller travailler en bas où j'aurai un contrat de manière plus longue et où je pourrai assurer une survie pour ma famille ». Et ça, c'est aussi quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous portons. Nous voulons vivre et travailler au pays, et c'est une catastrophe. On a interpellé le gouvernement sur ce sujet-là, mais le gouvernement, il est sourd. Lui, le gouvernement, c'est des Parisiens qui estiment qu'aujourd'hui, on peut travailler 24 mois dans l'année, et il ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas de notre faute si la neige ne tombe pas pendant les périodes d'été. C'est dommage.
Des systèmes avec un CDI saisonnier, avec une activité d'hiver, une activité d'été, ça se fait un petit peu à la marge avec un organisme qui gère ça. Bonne idée, applicable.
Nous, on l'a porté, c'est ce qui s'appelle le CD2I, le contrat à durée indéterminée intermittent. Le seul bémol de ce contrat-là, c'est que quand vous êtes en CDI, vous ne pouvez pas toucher le chômage, vous ne pouvez pas être indemnisé. Donc ce qu'on avait porté au niveau de l'UNEDIC, c'est que pendant les périodes d'intersaison où vous ne touchez pas de rémunération, on devrait être indemnisé. Et ça, l'UNEDIC n'en veut pas. Et c'est une catastrophe parce que, à la fois, ça sécuriserait le saisonnier sur un contrat à durée indéterminée, comme dans les remontées mécaniques, on a par exemple la reconduction automatique. Et donc, ça serait intéressant pour les autres métiers, l'hôtellerie, les sports d'hiver. Sauf que le gouvernement n'en veut pas, ne veut pas d'indemnisation. Alors, si vous lissez un salaire de 6 mois sur 12, c'est pas intéressant, quoi. Vaut mieux, dans le CD2I, avoir des contrats où ils portent sur 10 mois. Alors là, c'est intéressant, ouais.
Les JO, ça y est, on y vient. Alors, l'idée, c'est de dire que vous êtes pour ces JO, mais qu'il faut accompagner ça. 2030 va arriver quand même assez vite.
C'est ça. Alors, les JO, on fait la même opération que pour les JO de Paris. Dans les cas des JO, des JOP de Paris, la CGT était partie prenante du conseil d'administration du COJO, avec un représentant du patronat. Et il faut le dire, le bilan qu'on en tire, c'est que c'est très positif parce que le fait d'avoir adopté, par exemple, pour le JO de Paris, une charte sociale a permis de ne pas avoir d'accidents mortels sur les chantiers. Ça a été aussi fait grâce au doublement des inspecteurs du travail. Nous voulons porter la même chose pour les JOP de 2030. Et avec la charte sociale, on veut aussi y adjoindre une charte à la fois environnementale et la charte des mobilités. Environnementale, on le comprend. Il faut absolument qu'on travaille aujourd'hui sur ce que va être notre station de montagne en 2030. Et on voit qu'avec le réchauffement climatique, les choses s'accélèrent. Et nous, c'est aussi l'opportunité de se dire, il y a peut-être de nouvelles activités ou des activités à renforcer, et il faut absolument qu'on aille vers ces sujets-là. Et puis la question de la mobilité, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire il faut absolument qu'on invente ou qu'on renforce les systèmes de transport collectif pour venir dans les stations.
Oui, l'éboulement de ce week-end donne un peu raison, si on est en période de JO et qu'il se passe le même épisode, on est un petit peu dans une situation compliquée.
C'est pour ça que la solution ferroviaire de doubler nous paraît être une bonne idée aussi, pour dire on peut aussi faire en sorte de préfigurer ce que pourrait être le transport collectif au moment des Jeux Olympiques. Je rappelle qu'en 92, mon âge me permet de le dire, puisque j'étais à cette époque-là en responsabilité au moment des JO avec Michel Barnier, il y a eu 900 bus qui sont venus en Savoie, et qui ont permis de développer le transport collectif. D'ailleurs, il y avait pas de voiture qui était autorisée pour aller en station, c'était que du car, et ça s'est très bien passé, et je trouve que cette opération-là, faudrait la refaire, ça permet de remettre en place du transport collectif, et je répète, quand on met en place du transport collectif, c'est moins de nuisance, moins de pollution, et c'est bien meilleur pour la planète.
Ça, c'est dans l'idée, 2030, c'est dans 5 ans. Oui. Le doublement des voies, mettre en route le processus, c'est pas possible.
C'est mort. Ouais. Je crois que aujourd'hui, faut bien le voir, le ferroviaire et les infrastructures ferroviaires, c'est sur du temps long. On pourra améliorer la régularité. C'est pareil, pour avoir vu ce qui va se faire pour le Léman Express pour la Haute-Savoie. On va pouvoir améliorer la régularité. Quelques aménagements qu'on appelle des IPCS, installations permanentes de contresens. Mais je dirais, au-delà de ça, refaire des voies, c'est du temps long. Et nous, ce qu'on déplore, c'est que nos politiques, c'est aussi à ce niveau-là que ça se joue, ne prennent pas du tout la mesure de la vitesse à laquelle va le réchauffement climatique et de la vitesse à laquelle il faut qu'il y ait des réponses immédiates pour au moins laisser une planète un peu potable à nos enfants, quoi.
Antoine Fatigat, donc responsable CGT des saisonniers. Merci beaucoup. L'occasion de saluer tous les saisonniers en station en Savoie, en Haute-Savoie, qui accueillent bientôt tous les touristes pour ces vacances d'hiver et puis qui accueillent tous les locaux tout au long de l'hiver.
Merci à ODS. Première radio des Alpes, ça, je suis assez content de l'avoir entendu et d'y être participé. Merci.
Merci beaucoup et bonne semaine à tous.